C'est le temps pour nos enfants chéris d'aller à côté. Nous vous bénissons. Merci pour tous ceux et celles qui s'engagent, non pas pour de la garderie, mais pour former nos enfants en Dieu.
Et après, j'ai regretté.
Et... Amen.
C'est bon. Alors, on y travaillera la prochaine fois, d'accord, hein? T'inquiète pas, parce qu'il y a des tisses. Alors, tu peux le laisser tout doucement partir. Et t'inquiète pas, on y travaillera.
Excellent. Waouh, Seigneur. Quelques annonces avant de laisser la place à mon ami Mathieu. Donc le 30 octobre, chères demoiselles, chères femmes, marquez-le dans vos agendas. Ah, j'ai écrit le 31 octobre, soirée louange femmes, les connectés. Il y a un visuel qui doit s'afficher. Donc rendez-vous à 20h30 le 31 octobre ici à l'espace Connect. Pour nos chères femmes, passer un temps dans la présence du Seigneur. Élevez encore le nom de Jésus. Marquez-le dans vos agendas. 31 octobre, ne ratez pas ces moments tellement particuliers, tellement puissants. 31 octobre à 20h30 à l'espace Connect. Non, c'est pas grave. La semaine prochaine, nous nous réunissons ici. Donc, culte à l'espace Connect à 10h30. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints, en cours de route, nous nous réunissons ici depuis septembre chaque semaine à 10h30 le dimanche, sauf le dernier de chaque dimanche où nous sommes dans les braises. Qu'est-ce que les braises? C'est des petits groupes. C'est une vision que le Seigneur nous a donnée vraiment de se réunir aussi dans les maisons. Donc si vous faites partie de l'église Connect et que vous n'êtes pas à une braise, venez me voir. C'est vraiment important. Ça fait partie de ce qu'on veut vivre ici à Connect. Donc, dimanche prochain ici, mais dans 2 semaines, ça sera, je vous l'annonce déjà, dans les braises. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en fin de culte. Et enfin, annonce aussi très importante. Donc, notre cher ami Mathieu je vais plutôt redémarrer. On a vraiment senti qu'on arrivait à un croisement où on a l'église qui grandit, où on a les besoins qui grandissent. Et je me souviens de cette parole quand les apôtres se sont réunis et qu'ils ont dit « Mettez-moi », c'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas » et qui ont été envoyés. Et bien c'est pareil, Dieu nous a parlé clairement de mettre à part Matthieu qui aujourd'hui était infirmier à plein temps dans Montélimar. Et nous avons vraiment eu à cœur qu'ils prennent ce temps à partir de novembre, 3 jours par semaine pour l'Église Connect. C'est un pas de foi, les amis. C'est pas facile de lâcher son travail. On peut l'applaudir pour lui et pour sa famille. Et j'en suis ému parce que, vous savez, des hommes et des femmes qui se lèvent comme ça pour servir le Seigneur, oui, il y a une part de sacrifice, mais je crois que nous allons voir des choses extraordinaires. Et les amis, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos encouragements, nous avons besoin qu'ensemble, on se tienne à la brèche pour ce croisement, pour ce carrefour où nous sommes. Mathieu se lève, mais je suis sûr que d'autres vont se lever pour la gloire du Seigneur, pour œuvrer dans Montélimar, dans le Dauphiné, cette vision que l'on a reçue de voir le feu du Saint-Esprit se manifester dans tout le Dauphiné. Alors voilà, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Église Connect à partir du 1er novembre. Mais je nous y encourage encore. Prions pour Mathieu, prions pour Emmanuel, prions pour cette famille Trèfcon et pour l'Église Connect encore. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sans transition, je te laisse la place, mon ami, que le Seigneur te bénisse.
Merci. Quel bonheur d'être ici ensemble ce matin. C'est important, vous savez, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, avec toutes ces sollicitations, vous savez, il y a beaucoup ce concept de routine qui est repris. Et moi, j'aime sur cette routine. Cette bonne routine du dimanche matin où je sais que je vais retrouver mes frères et mes sœurs et que moi je vais apporter quelque chose à Dieu, je vais apporter quelque chose à mes frères et mes sœurs, mais je reçois autant. Et ensemble, c'est ça le peuple de Dieu qui, ensemble, main dans la main, marche dans la destinée que Dieu a pour nous. Et on va continuer ce matin cette série. Vous savez, on fait cette série sur des disciples qui se multiplient. Dieu nous a parlé clairement, continue, n'arrête pas en fait de nous parler sur ce thème-là. Et on entend ça, pas que chez nous d'ailleurs, dans beaucoup d'autres églises et mouvements. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher le morceau, on veut vraiment continuer. Merci à tous ceux qui ont pu écouter mon message de la semaine dernière. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais vous résumer en quelques mots ce dont on a parlé. Donc en fait, même ce message aujourd'hui, c'est tiré d'une formation que Simon, celui que nous reconnaissons comme apôtre pour notre communauté, qui est en Angleterre, à Bedford, a mis au point. Pendant un an et demi de Covid, il a lu 20 livres, lui-même participé à 5 formations, s'est ensuite attelé à lui-même créer cette formation qui regroupait un peu tout ce qu'il avait étudié. C'est un ingénieur, il aime bien faire ça, il a surtout le talent pour ça. Et nous, ben, plutôt que de réinventer l'eau chaude ou le fil à couper le beurre, on s'est dit, ben voilà, c'est notre ministère apostolique, on y croit à fond et on le voit. Et pourquoi cette formation? Parce qu'en fait, ça part du constat Dieu nous appelle à la multiplication. En fait, des nations, des disciples, c'est beaucoup plus un principe de multiplication que d'addition. Et parce que les amis, si on est réaliste, nos églises, voilà, vous voyez ces 4 murs qui sont fixes et nous avons implanté l'église à 6 ans. Merci Seigneur pour la croissance de l'église en nombre. Encore une fois, on n'est pas sur une volonté de grandir l'église, faire grandir l'église pour avoir un nombre de personnes. On est juste dans la volonté d'obéir à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit que nous sommes appelés à faire des nations, des disciples. Il y a beaucoup, je vais y revenir, cette notion de multiplication plutôt que d'addition. Et en gros, et d'ailleurs c'est très lié avec le verset que Olivier vient de nous le dire, c'est pas moi ici le seul prêtre, le seul sacrificateur dans la pièce. C'est ça qui est beau dans la foi chrétienne et dans l'expression du christianisme que nous vivons en tant qu'Église Connect. C'est chacun de vous, chacun de nous est un prêtre, une prêtresse, un sacrificateur, une sacrificatrice, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est chacun de nous. Il y a ce sacerdoce royal qui est répandu sur le corps tout entier et chacun de nous, nous sommes envoyés. Vous savez ce verset de Luc 10:2 où Jésus dit, les amis, il dit ça à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Parce que cette moisson est grande. On n'arrête pas de dire, oui, on veut évangéliser Montélimar, on veut amener la bonne nouvelle dans Montélimar, dans le Dauphiné. Mais si on est réaliste, si on regarde les chiffres, eh bien, en fait, c'est des super mots, mais la réalité qu'on souhaiterait vivre n'est pas toujours présente. Et c'est important, en tant qu'Église, qu'on sache se remettre être remis en question par le Seigneur. Voilà, c'est super de dire des choses, de mettre des titres, de mettre des logos, tout ça, mais qu'est-ce qu'on vit dans la réalité? Parce que chacun de nous est un ouvrier dans la moisson, appelé à vivre la multiplication de l'Évangile autour de nous. Amen. Amen. Et j'ai été très encouragé par les retours sur le message de la semaine dernière, et je sens qu'il y a ce feu. Vous savez, on disait l'Évangile est un feu, et je sens que ce feu est dans vos cœurs. Mais parfois, il faut souffler sur les braises pour que ce feu puisse réembraser autour de nous. Amen. Et du coup, la semaine dernière, on avait dit que la base de tout ça, en fait, pourquoi on veut amener l'Évangile? Pourquoi on veut obéir à Dieu dans ce sens-là? Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que ceux qui placent leur foi en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils, pas pour que le monde soit condamné par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Qu'est-ce qui a motivé le Père à envoyer son Fils? Une seule chose, l'amour. L'amour de Dieu pour ses enfants. Et nous, ça devrait être aussi notre seule et première, en tout cas, motivation. Le fondement de tout ça, pourquoi on veut faire des nations des disciples, c'est par amour. Parce qu'on a été tellement bouleversés par l'amour de Dieu pour nous personnellement, que nous devenons un canal qui est envoyé là où Dieu nous a placés pour que son amour touche les gens autour de nous. C'est pas pour montrer qu'on est les meilleurs, c'est pas pour montrer que nous on a raison, qu'on a tout compris, que les autres sont complètement à la masse, même si des fois humainement c'est terrible, mais on se sent supérieur, on sent qu'il y a comme du jugement qui vient de nous, on dit mais non, mais regarde, il se trompe, oui peut-être il y a des raisons valables là-dedans, Mais ce n'est pas ça qui nous fait aller voir les personnes et témoigner. C'est poussé par l'amour de Dieu. Amen. Dans Matthieu 9, 35, pour illustrer ça, juste un court passage. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voilà ce qui poussait Jésus dans ses 3 ans de ministère après avoir été baptisé. Il était poussé par la compassion. Et nous avons besoin de grandir et de nous laisser renouveler dans la compassion de Dieu. Parce qu'une fois que nous avons cette compassion qui est vraiment, qui se manifeste en nous, nous devenons inarrêtables, les amis. Et j'en parlais encore ce matin avec Véronique. C'est fou comme des fois on peut se forcer à dire « Oui, je veux être un bon disciple. Allez, il faut que je témoigne, il faut que j'évangélise. » Non seulement on le vit mal, mais en plus on voit peu de fruits. Alors que quand on se laisse remplir par l'amour de Dieu et que nos actes sont conduits par cette puissance-là, comme par hasard, c'est comme si les portes s'ouvraient naturellement et qu'on se retrouvait dans des opportunités que nous n'avons pas créées et des gens qui répondent spontanément, beaucoup plus facilement à l'évangile. Amen. Vous avez remarqué ça aussi ? Amen. Merci Seigneur. C'est tellement bon. Dans 1 Jean 4, on lit aussi « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Dieu est, tel nous, nous sommes. Il nous a fait à son image. » À son image. Ça a été le grand mensonge de la chute où Adam et Ève ont cru manger son fruit pour devenir comme Dieu, comprendre la différence entre le bien et le mal. En fait, ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Et du coup, pour cette multiplication, je vais trop vite. Donc, la semaine dernière, on a dit, voilà, ce qui est important pour faire des disciples, c'est chacun de nous d'avoir une vision de l'amour de Dieu pour les perdus. Ça, c'est vraiment le fondement. Donc, gardez ça vraiment en vous. Ne lâchez pas le Seigneur tant que vous n'avez pas vraiment cette conviction ferme et dans vos cœurs. J'ai besoin d'une vision de l'amour de Dieu pour les perdus. Et aujourd'hui, on continue sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est se centrer sur la parole de Dieu. Merci Stéphanie. Et du coup, on va voir très simplement, donc encore une fois, soyez patients avec moi. Beaucoup de mon message, là, c'est des notes de la formation que je suis en ce moment même en train de suivre avec Simon. Très honnêtement, je ne pouvais pas attendre 2 ou 3 mois pour qu'on vous transmette tout ça. Et en tant qu'équipe, on a vraiment senti, on ne voulait pas attendre. On veut, c'est Dieu ce que Dieu nous dit en ce moment, donc on y va. Donc voilà, je vais essayer de vous donner ça de la manière la plus digeste possible. Ayez bien vos cœurs ouverts. Vous savez quoi, on va prier en fait, ça va nous aider. Seigneur, merci pour notre présence ici grâce à toi et merci surtout pour ta présence ici, Seigneur. Tu es souverain de toute éternité, tu as désiré être avec ton peuple, Seigneur. Et nous, depuis notre naissance, depuis surtout notre nouvelle naissance, nous avons un désir, Seigneur, t'obéir, t'adorer, te louer, que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre volonté le plus important, c'est toi le centre, c'est toi l'objet de notre désir, l'objet de notre obéissance. Sois glorifié ce matin alors que nous parlons de ta parole et de comment nous pouvons la transmettre. Jésus, en ton nom, Seigneur. Amen. Donc ce matin, on va voir ce principe simple par rapport à la parole de Dieu, entendre, obéir, partager. C'est tout simple, entendre, obéir, à partager. Vous savez, les amis, Simon nous disait toujours ça, l'évangile, c'est simple et puissant. Mais nous, on a cette faculté incroyable à le complexifier et du coup à le rendre pas puissant. Mais l'évangile, c'est simple et puissant. Donc entendre, obéir, partager. Et c'est fou de voir dans le prologue de Jean comme Jésus est appelé la parole. La parole, lui-même est la parole, faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et du coup, en fin de message, là, on va parler de ces fameux groupes de découverte dont je vous parlais la semaine dernière par rapport à ce dans quoi se forment les plantés. Et c'est beau de voir comme le Saint-Esprit, et tout ne dépend pas de moi, de l'équipe. En fait, on est tous une équipe et Dieu s'est occupé de former les plantés en même temps qu'il nous parle de ça. Donc, on va pouvoir vraiment travailler en équipe. Mais soyons sur entendre, obéir et partager. Donc rappelez-vous que la semaine dernière, je vous ai lu des versets que je vais vous relire. C'est ça qui est bien aussi dans cette formation, c'est que c'est toujours un peu les mêmes versets qui reviennent. Et c'est bien pour qu'on se les s'approprie vraiment. Je vous lisais déjà ça la semaine dernière. Notez, acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Hein, on a parlé de multiplication et c'est la parole qui se répandait. Juste un peu plus loin, on est toujours dans cette période, hein, post-résurrection. Acte 9, 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix, elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Donc cette idée encore de multiplication. Et enfin, acte 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc en gros, si nous aussi, nous voulons voir cette multiplication dont on parle, on a besoin de trouver une méthode pour que la parole de Dieu se répande, voir la parole se multiplier de la même manière. En fait, c'est vraiment l'évangile, c'est cette parole, c'est Jésus qui est venu amener la bonne nouvelle comme cette parole libératrice pour ceux qui sont autour de nous. Et on a besoin de voir ça. Et c'est ce qu'on voit un petit peu ce matin, qu'on essaye d'être concret. C'est pas une méthode, j'ai envie de dire, c'est pas la seule méthode. Cette méthode n'est pas magique, c'est tout simple ce qu'on partage. Donc entendre, obéir, partager. Donc commençons par entendre. Entendre, obéir, partager. Entendre. Entendre la parole de Dieu comme une fondation pour nos vies. Et vous connaissez la différence hein, entre entendre. Entendre, ça peut être quelque chose de passif. Du coup, on dit non, il faut écouter. Mais des fois, quand on écoute, on n'entend pas vraiment ce que Dieu nous dit. Donc là, on est dans entendre vraiment dans le sens entendement, compréhension, que ça nous impacte. D'accord ? Donc, ce qu'on voit ce matin, c'est que Jésus connaissait la parole. Luc 4, 26-27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Jésus, qui est notre modèle, connaissait vraiment la parole. Donc lui, évidemment, n'avait pas les évangiles. Il était sur le Pentateuque, la loi, mais aussi les prophètes. C'était ça, sa Bible, à lui, mais il la connaissait sur le bout des doigts. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on parle pas forcément des chrétiens, mais dans le monde en général, souvent les gens, ils sont attirés par la personne de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, même parmi les non-chrétiens. On trouve que c'était un homme plutôt remarquable. Mais les gens vont parfois, et même souvent, être rebutés par la Bible, la parole, et par rapport à son message. Parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est beaucoup de règles et beaucoup de contraintes, de choses à appliquer. Et tout de suite, ça va les basculer en mode religion. Mais nous avons besoin de connaître la parole. Pour bien la transmettre, on a besoin de connaître la parole. Ensuite, Jésus défendait la parole de Dieu. Matthieu 5, 19, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » En gros, ça veut dire que les amis, qu'il ne faut pas qu'on aille toujours vers les mêmes versets qui nous font du bien. Vous savez, on a tous ces versets, on a nos passages préférés et il n'y a rien de mal à ça. Mais il faut qu'on apprenne à prendre la parole dans sa globalité. Dans sa globalité. En ce moment, je fais la lecture de la Bible en un an et c'est bientôt la fin. Et je suis dans Jérémie en ce moment. Et ben, je vous promets que à première lecture, des fois, ce n'est pas facile parce que ça peut paraître un peu déprimant. Mais souvent, je dis « Seigneur, mais parle-moi par rapport à ça, quoi. » Parce que c'est 3 chapitres par jour, 3 chapitres en gros de jugement sur Israël. Quoi. Il y a quelques petits moments dans Jérémie qui sont plus encourageants à première vue. Mais quand même, quand je ressors de ça, je sens Dieu qui me parle à moi et qui me dit « Tu vois, tous ces jugements sur Israël, voilà comment l'homme est quand je ne suis pas maître au milieu de lui. Voilà. Et toi, ton cœur, quand je ne suis pas maître dans ton cœur, voilà comment tu es aussi. » Amen les amis, on a besoin de toute la parole de Dieu, pas seulement une partie, et de défendre cela, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et Jésus entendait aussi que tous entendent Dieu pour eux-mêmes. Jésus, c'est lui qui a amené ce sacerdoce universel, ce sacerdoce royal pour tous. Et pour lui, c'était important que chacun puisse entendre la parole de Dieu. Pour Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Hein. On a parlé de ça la semaine dernière. et moi je le ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui, vient à moi. Et alors que nous sommes plongés dans la parole de Dieu, Dieu nous instruit. Et c'est pour ça que c'est beau, en ce moment on parle pas mal de gens à qui on offre des bibles, des choses comme ça, et c'est important de voir que il ne faut pas qu'on se mette en médiateur entre la parole de Dieu et les gens. C'est important d'expliquer, de répondre à des questions, mais chaque personne, même qui ne connaît rien à Dieu, la parole de Dieu est vivante. Et l'Esprit veut vraiment parler aux personnes alors qu'elles lisent la parole de Dieu. Amen. Dieu nous instruit alors que nous lisons sa parole. Mais du coup, vous savez, moi qui suis très attaché à l'église locale, je me dirais, mais du coup, à quoi sert le ministère de l'enseignant si chacun comprend et avance avec Dieu juste par la lecture de la parole personnelle? Mais en fait, il y a ce verset de Timothée 2:2 qui dit « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » En fait, on a besoin de devenir capable de transmettre, on a besoin de se former. Le rôle de l'enseignant n'est pas uniquement d'enseigner. En fait, son rôle principal n'est pas d'enseigner. Le rôle de l'enseignant, c'est de venir sur quelque chose qui est déjà fondé, de gens qui ont l'habitude d'être enseignés par Dieu, qui ont cette fondation de la parole de Dieu dans leur vie, et lui va les aider à transmettre. Parce que qu'est-ce que c'est vraiment le rôle du ministère d'enseignant? Il a cette faculté qui lui est donnée de Dieu d'expliquer, de transmettre, mais pas pour nous nourrir, pour nous enseigner comment nous pouvons transmettre à d'autres. Hein, c'est important qu'on ne vienne pas à l'église pour dire « Ah, ben, je vais recevoir la parole de Dieu pour moi et ensuite je vais aller faire autre chose et puis on recommencera la semaine prochaine. » Non, je me nourris moi personnellement pendant toute la semaine de la parole de Dieu, chaque jour. Et le dimanche, je viens avoir comme des outils, comme une motivation, comme une visitation de l'esprit alors qu'on est rassemblés entre frères et sœurs pour aller plus loin et pour transmettre tout cela. Amen. Grandir dans notre capacité, c'est ça être disciple, c'est grandir dans notre capacité. Donc ça, c'était entendre la parole de Dieu. Vous savez, ma chère et tendre épouse, souvent je triche un peu, je dis des choses comme venant de moi, en fait j'oublie de citer mes sources, et ma chère femme, l'autre jour on discutait, et c'est vrai que, vous savez, comme on sait que c'est important de lire la Bible tous les jours, le matin, etc., pour bien démarrer la journée, mais toutes ces choses-là, on a tendance parfois à avoir des périodes où on oublie, et puis d'un coup on se demande pourquoi on va un peu moins bien. Et Emmanuel me disait, mais c'est drôle, et je trouvais ça très bien dit, comme quand on se réveille le matin, je voulais peut-être déjà partager la semaine dernière, je voulais partager ça ? Non. Quand on se réveille le matin, si vous êtes comme moi, on est toujours un peu dans ce brouillard, ce demi-sommeil, vous savez, quand le réveil sonne, et en gros, on ne sait pas à ce moment-là si on va bien ou si on ne va pas bien, parce qu'on n'est pas réveillé. Et c'est vraiment ce moment stratégique où il faut commencer par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est tellement tentant avec nos smartphones, on enlève le mode avion, et tac, tout de suite, tac, 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 si on ne fait pas gaffe à nos applications, toutes les notifications arrivent et ça y est, c'est trop tard. Non. Et moi, c'est vrai que j'ai repris cette discipline de m'interdire absolument de lire ou de regarder quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu, vraiment comme toute première chose, avant d'aller faire pipi. Vraiment, toute première chose. Toute première chose. Non, mais c'est vrai, les amis. Je dis ça, c'est drôle, mais vraiment, je regarde au moins le verset du jour. Et après, bon, voilà, j'ai d'autres outils pour aller plus loin dans les minutes qui suivent, après être allé aux toilettes. Là, je peux... Mais vous voyez ce que je veux dire, les amis, et on a remarqué avec Emmanuel, c'est fou, quand on fait ça, on commence la journée du bon pied, même si vous n'êtes pas du matin, les amis. Je ne vous parle pas de faire une étude biblique d'une heure au réveil. Juste la première chose qui vient me nourrir dans ma journée, la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'était entendre. Ensuite, obéir. L'obéissance comme élément fondamental de l'amour pour Jésus. L'obéissance, c'est un peu un gros mot au XXIe siècle en Occident, mais bon, voilà, nous, on se réclame de la culture du ciel, donc voyons un peu ce que le Seigneur en dit. Jésus nous a appelés, pas une obéissance bête et méchante, il y a du fond derrière, une obéissance relationnelle. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas et ne met pas mes paroles en pratique, celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Et le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc l'obéissance, c'est important de voir que là, c'est par amour et c'est par le Saint-Esprit. C'est par amour et c'est par le Saint-Esprit. En fait, quand on obéit, c'est un signe que nous sommes dans cette relation d'amour avec Dieu. Et c'est un signe aussi que l'on est conduit par l'Esprit. Parce que si on obéit par nos propres forces, ça va nous dessécher plus que nous nourrir. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est incroyable comme des fois on cherche des nouvelles révélations. Vous savez, oui, on veut savoir, on va dans plein de sources différentes pour trouver des nouvelles révélations. Mais que comme d'obéir simplement à ce que Dieu nous dit, et par sa force à lui, sa puissance à lui, eh bien, ça nous fait rentrer dans des nouvelles révélations. D'un coup, c'est comme si on franchissait, vous savez, une écluse qui nous fait passer un palier par une simple obéissance. Amen. Qu'est-ce qui ressort de ce passage ? L'obéissance, on aurait tendance naturellement à l'opposer à la grâce. On a l'impression que si c'est obéir, c'est par nos propres forces, c'est des œuvres. Et il y a ce passage, vous savez, qu'on va lire, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est un de mes passages préférés. Regardons-le ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ? Éphésiens 2, à partir du verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, je m'arrête une seconde, les amis. C'est peut-être ta première visite ici. Ça, c'est un fondement qu'on veut prêcher, reprêcher, reprêcher ici. C'est par grâce que tu peux être sauvé. Si tu es déjà sauvé, c'est par grâce que tu as sauvé. Rien de ce que tu fais ne peut t'aider à plus mériter l'amour de Dieu. Aucune action que tu fais ne peut t'aider à mériter l'amour de Dieu. La grâce, ça veut dire que c'est un don gratuit. Le salut est un don gratuit. On n'aurait pas pu se sauver nous-mêmes. Seul Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous offre. Pour nous, c'est gratuit. Pour lui, ce n'était pas gratuit. Il a payé de sa vie. Mais n'essaye pas de mériter la grâce ou mériter l'amour en t'efforçant. Tu vas te fatiguer pour rien, mon ami. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre, Paul est d'accord avec moi, que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, grâce et obéissance ne sont pas opposées. Quand je viens, quand je suis transformé par la grâce de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, là, je peux faire toutes ces œuvres bonnes. Donc, les œuvres suivent la grâce. Ça ne s'oppose pas. Mais par contre, il y a un ordre à tout cela. Amen. Et l'obéissance est enracinée dans notre amour pour Jésus. Jésus dit dans Jean, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Et mon Père aussi l'aimera. Et l'obéissance, c'est, comme on a dit, par la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui, le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. Donc, entendre vraiment la fondation au quotidien. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. D'entendre la parole de Dieu. Il y a Wesley, il y a 300 ou 400 ans, qui avait un groupe de discipulat, vous savez, avec ses amis. Je crois que c'était Charles Wesley, et tous les jours ils avaient 22 questions qui se posaient les uns aux autres pour savoir où ils en étaient dans leur marche avec Dieu. Et une de ces 22 questions, c'était: est-ce que la parole de Dieu a vécu en moi aujourd'hui? Pose-toi cette question, mon ami, chaque jour: est-ce que la parole de Dieu a vécu en moi aujourd'hui? Tu peux la poser aussi à ton époux, à ton épouse, à tes amis. Ça leur fera du bien. Donc on a dit entendre et on a dit ensuite obéir. Mais obéir par amour et par le Saint-Esprit. Ça vient tout de... Vous savez, il y avait une règle quoi, dans le jardin d'Éden. une règle, pas une règle comme une obligation, mais ça marchait d'une seule manière, déjà avant la fondation du monde et jusque dans l'éternité où nous serons avec lui pour l'éternité. Il y a une seule chose, en fait, c'est Dieu qui est au centre. Il était là avant nous, c'est l'alpha et l'oméga. Il nous a créés pour qu'on soit ramenés. Il nous a créés pour qu'on soit avec lui. Ensuite, nous avons fait ce mauvais choix de nous séparer, de nous éloigner. Mais tout de suite, par Jésus, il nous ramène avec lui, lui au centre. Et pour l'éternité, qu'est-ce que nous ferons? Nous l'adorerons. Et qu'est-ce qu'il y aura au centre? Son trône. Donc il y a une seule chose en fait importante dans la Bible, c'est ce Dieu d'amour, c'est lui qui est au centre. Et ce n'est pas moi qui suis au centre. Ça, c'est ce que notre société d'aujourd'hui nous dit. C'est toi. Ben non, ce n'est pas toi, c'est lui. Amen. Et dernièrement, partager. Entendre. Quand j'entends la parole de Dieu, vraiment, vraiment, ça me touche, ça me permet d'obéir sans me forcer par le Saint-Esprit. Mais j'ai été impacté par ce qu'il me dit. Donc, je vais être là capable d'obéir comme il faut, d'une manière saine. Et une fois que j'obéis, comme je vous ai dit, ça me libère pour partager. Parce qu'il faut bien qu'on ait quelque chose à raconter. Quand on lui obéit, on voit son royaume, on voit son évangile se manifester. Et là, j'ai des choses à transmettre. Là, j'ai des choses à raconter. Partager la parole de Dieu, c'est le fruit d'entendre et obéir. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage dans Deutéronome 6. Ceux qui ont une affinité particulière, comme on devrait tout savoir pour Israël, connaissent encore mieux ce passage. Deutéronome 6 à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais souvent, c'est vrai, et je le confesse, c'est toujours peut-être un peu mon cas, on oublie qu'est-ce qui vient à la suite de ça, qui est extrêmement pratique et concret. Est-ce que quelqu'un sait là d'office, qu'est-ce qui vient à la suite de ça? Ton prochain comme toi-même, alors ça c'est extrêmement important, mais c'est pas ce qui suit ça, je vous le lis, moi je savais pas non plus. Pardon? Alors, je finis sur « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Bon, les amis, je vous lis. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et nos amis juifs, vous savez, ils ont cette mezouza sur leur porte d'entrée. Ils ont cette mezouza qui se mettent parfois aussi sur le front. La parole avec des versets, vous savez, c'est une petite boîte avec un verset à l'intérieur. Petite boîte qui colle à l'entrée de leur porte. La parole de Dieu. Même si nous ne faisons pas ça parce que nous ne sommes pas juifs, qu'est-ce que ce symbole, c'est plus qu'un symbole. C'est une démonstration de quelque chose de tellement important pour nous. Il y a plein de choses qu'on se dit, ah mais non, ça c'est le judaïsme. Non, ce n'est pas le judaïsme. Il y a un enseignement pour nous là-dedans. Comme le Shabbat, le sabbat, c'est pareil. C'est des enseignements pour nous. Cette parole partout. Et tous les jours, tu en parleras quand tu seras chez toi, avec tes enfants. Partager la parole de Dieu tous les jours. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. C'est de là que vient la petite boîte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu les écriras sur les montants de ta porte et de ta maison, sur les portes de tes villes. La parole de Dieu tout le temps la parole de Dieu. Et Jésus réexprime cela dans Matthieu 28, vous savez. On lit tout le temps Matthieu 28, vous savez, 18, la fête des nations, des disciples. Mais c'est comme si on mettait moins d'emphase, moins le focus sur ce qui suit. Et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et beaucoup de chrétiens, c'est vrai, on a peur de partager la parole de Dieu. Mais c'est comme si c'est normal. En fait, on n'a pas appris à le faire. On a besoin d'apprendre ça. Il y a aussi des méthodes pour que ce soit plus facile de partager l'amour de Dieu. Parce que si on arrive avec nos gros sabots ou encore si on veut expliquer aux gens combien ils ont tort et combien nous on a raison, vous êtes d'accord avec moi, ça ne porte pas beaucoup de bons fruits. Et on a besoin d'entendre encore, d'obéir à cette parole, mais aussi de la partager avec les autres. Et vous avez vu, hein, je le disais la semaine dernière, quand on partage la parole de Dieu, quand on partage un témoignage, quand on prie pour quelqu'un hors des murs de l'Église, waouh, on sent la vie de l'Esprit qui est ravivée en nous. Parce que, ben voilà, on a besoin de lui pour faire ça. Et on sent sa vie qui coule au travers de nous. Il n'y a rien de... C'est une sensation tellement excellente. Donc là, je vais juste vous citer deux moyens de partager la parole de Dieu. Donc premièrement, les histoires au quotidien. Vous savez, quand on a déménagé à Montélimar avec Emmanuel, pourquoi on est venu à Montélimar? Cette région est absolument magnifique, mais c'est parce que Dieu nous a parlé sur implanter une église dans le Dauphiné, puis il nous a parlé plus précisément par Montélimar. Donc on est arrivé là. Moi, par bonheur, étant infirmier libéral, c'est assez facile de trouver du boulot un peu n'importe où en France. Mais quand même, j'étais remplaçant au début dans un cabinet dans lequel je suis associé aujourd'hui. Et j'avais peu de travail dans ce cabinet. J'ai augmenté petit à petit. Et du coup, même pour subvenir à nos besoins concrets, ce n'était pas facile. Et je me revois avec Emmanuel, avec des moments quand même de doute et de souffrance par rapport à ça. On se disait, purée, mais comment on va faire quoi, pour avoir assez d'argent pour vivre, tout simplement. Manquer parfois un peu de foi. Et je nous revois cette matinée-là, se mettre vraiment devant Dieu dans les larmes et chanter à Dieu ce chant, vous savez, de Sam Olivier, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Vous savez, Jérémie 29, 11. Et on chantait ça avec Emmanuel et je me rappelle pleurer. Je dis, Seigneur, on a vraiment besoin de toi là. On n'était pas, voilà, on n'était pas à la rue, mais ce n'était pas facile quand même. Donc j'étais dans mes recherches, j'avais besoin de trouver un autre remplacement en fait pour cumuler, pour avoir là du coup assez d'argent. Et le premier, je me revois tomber sur ce nom de cette infirmière libérale à Montélimar et son numéro de portable. Donc j'ai parlé de Jérémie 29, 11, ce verset. Et je connais le projet que j'ai formé sur vous, des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et fait d'espérance ou de l'espérance. Et la première infirmière que je veux appeler à ce moment-là, je trouve son numéro parmi tant d'autres, son numéro de portable, c'était 06 29 11. Et après d'autres chiffres. Et ça m'a choqué quand c'était le même jour, je tombe sur ce numéro de portable et j'ai dit, mais c'est fou, comme Dieu qui venait confirmer, je sais par quoi vous passez, je vais pourvoir. Et dans les jours qui ont suivi, Dieu a pourvu pour un autre cabinet, et puis ensuite, voilà, de s'associer, etc. Mais juste pour vous dire que je vous partage ça comme la parole de Dieu. Alors que je chantais que la parole de Dieu est venue vivre en moi, je vous partage ça comme une histoire concrète qui m'est arrivée. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à vos amis. Vous parlez dans une situation, par exemple, quelqu'un qui passe par un moment difficile, et ben tu dis, ah tiens, ça me fait penser à Jésus dans la barque et la tempête et les disciples qui sont apeurés. Et quelle est la réaction de Jésus ? Avant de se lever, d'éteindre la tempête, il est au repos, il dort. Et comme quoi, Dieu veut amener la paix dans ta situation. Vous voyez, il y a une manière qu'on peut développer comme ça, d'utiliser des histoires concrètes de la Bible qui vont rejoindre les gens dans leur situation. Ça peut être aussi des malades et de parler d'une situation où Jésus guérit un malade, voir comment ça se passe, comment Jésus amène ça et qui peut déboucher sur prier pour cette personne, offrir en tout cas la prière. Vous voyez ce que je veux dire ? Utiliser des histoires concrètes de la Bible. C'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse bien notre Bible. C'est parce qu'on va pouvoir la partager comme ça, utiliser ces histoires. Amen. Et un deuxième élément, ça ce sera plus, on va développer ça plus, probablement avec Rémi et Mélodie dans le futur, mais c'est ces fameux groupes de découverte. Et comme j'ai dit la semaine dernière, on va vraiment essayer de, par la sagesse de Dieu, faire de la place dans notre vie d'église pour ça. Pour ces groupes de découverte. Qu'est-ce que c'est les groupes de découverte ? En fait, soit avec des... Il y a deux formules un peu. Il y a pour les chrétiens, mais il y a aussi, et c'est plutôt là mon point ce matin, pour les non-chrétiens. C'est juste rassembler quelques personnes, 3-4 personnes, il n'y a pas besoin de beaucoup, pour leur proposer de découvrir un passage de la Bible ensemble ou découvrir la Bible ensemble s'ils sont d'accord de venir régulièrement avec vous. Et du coup, c'est basé sur un cadre extrêmement simple. C'est le suivant. Donc vous vous rassemblez, donc on vous développera, il y a toute une partie d'abord où on parle de notre semaine, de ce qu'on a vécu, on s'encourage un peu, on se soutient les uns les autres, et ensuite on bascule dans cette partie découverte de la parole. Donc vous prenez votre passage, un passage que vous avez choisi, qui parle de Jésus ou un autre passage, et il faut qu'une personne lise ce passage une première fois, une des personnes du groupe, n'importe qui, une deuxième personne va le lire une deuxième fois, et une troisième personne va reformuler le passage avec ses propres mots, en essayant de rester le plus fidèle possible. On n'est pas là en train d'essayer d'interpréter, juste reformuler l'histoire, d'accord ? Là, le but de ça, comme je vous dis, c'est les personnes, même les personnes pas chrétiennes ou qui connaissent pas du tout la Bible, c'est elles qui font. En fait, tout le monde participe. Encore une fois, on est là de, je me mets pas en intermédiaire entre Dieu et vous. C'est ensemble. Alors, il y a quand même un facilitateur qui aide chacun à prendre la parole, à mettre les gens à l'aise dans l'atmosphère. Donc, on lit une deuxième fois et on reformule le passage. Et ensuite, il y a trois questions toutes simples auxquelles on essaye de répondre ensemble, tous ensemble. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce passage, ou sur Jésus, si ça concerne Jésus, ou le Saint-Esprit, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Deuxième question, qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain en général, mais là en l'occurrence, c'est-à-dire ben moi, qu'est-ce que j'apprends sur peut-être les hommes en général, mais aussi pour moi ? Et enfin, qu'est-ce que je peux appliquer concrètement à ma vie ? Et là, d'essayer de partir sur des phrases telles que à la lecture de tout ça, à la compréhension de tout ça, je vais faire telle chose, ou je décide d'essayer de faire ça cette semaine. Vous voyez, des phrases vraiment d'action où on s'inclut dedans dans vraiment une action. Donc voilà, ça c'est le groupe de découverte. Et il y a encore une fois toute une formation très très simple, hein, très très facile, mais soyons intelligents en tant que chrétiens pour vraiment créer des espaces comme ça où nos amis non chrétiens vont pouvoir venir, non seulement sans être jugés et sans qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie, de nous-mêmes, mais que la parole de Dieu puisse vivre au milieu de nous comme ça et toucher les cœurs. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce matin ? La première chose qu'on doit faire, c'est entendre. Entendre. La deuxième chose, obéir. Et la troisième chose, partager. Partager. Vous savez, les amis, je vais vous envoyer les notes. Vous les aurez. Je vais peut-être les mettre sur le groupe WhatsApp pour vous remémorier tout ça. Et moi, ce que j'ai envie de faire, et je ne vais pas faire d'appel ce matin, mais j'ai envie qu'on finisse par prier. Parce que, comme on a dit, toutes ces choses-là, on veut les mettre en pratique. Donc, on a parlé d'avoir une vision de l'amour de Dieu pour les perdus. Peut-être que cette semaine, tu as eu l'opportunité de partager l'amour de Dieu avec quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Je vois des oui, c'est merveilleux. Les amis, je vous encourage, je vous demande même, et je vous propose, prie que Dieu te montre une personne à qui, d'une manière ou d'une autre, tu peux partager son amour cette semaine. Et puis, je vous encourage aussi, et je vous propose, réfléchissez. Ces groupes de découverte. Moi, on n'a pas envie d'institutionnaliser ça et que ça soit une activité d'église qu'on est un peu obligé. Non, 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 non. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Il y a déjà plusieurs personnes dans l'église qui ont à cœur de faire ça avec des amis à eux. Réfléchis. Est-ce que, Seigneur, je ne pourrais pas démarrer un groupe de découverte ? Oui, il y a les braises et tout, mais comme je l'ai dit, on va faire de la place. On sent vraiment que Dieu nous envoie dans ce chemin-là en ce moment. Donc, on va faire de la place. Tu ne seras pas obligé d'assister à toutes les autres réunions si tu fais un groupe de découverte, sauf si c'est en semaine, la journée, et que tu peux, mais on va en parler. Mais donc ça vous dit qu'on ferme les yeux, les amis, et qu'on se mette devant lui pour ça, pour ce côté très concret. Ben, Seigneur Jésus, tu vois, mes frères et mes sœurs, on est là, ensemble, assemblés devant toi aujourd'hui. Et Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Ce matin, nous entendons ce que tu nous dis. Ça ne se rentre pas par une oreille, ça ne sort pas par l'autre. On est vraiment touché par ce que tu nous dis, on a envie de progresser dans le fait d'être des disciples qui se multiplient, qui nous multiplions. Et Seigneur, ce matin, tu vois qu'on a parlé plus particulièrement de ta parole. Jésus, tu es la parole qui s'est faite chair et est venue demeurer parmi nous. Et tu es là, Seigneur, encore ce matin. C'est toi qui nous dis toutes ces choses. C'est toi qui parles à nos cœurs par ton esprit. Et Seigneur, je veux tout simplement nous remettre, Seigneur, entre tes mains. Et je vous invite, les amis, à vous remettre entre les mains de Dieu, à vous confier encore à lui, comme quelque chose de « c'est pas moi qui suis au centre, c'est pas ma volonté ». Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, comme Jésus a dit au Père, que ta volonté, non pas la mienne. Et Seigneur, tu vois cette fondation absolue, Seigneur, de ce qui nous envoie pour faire des disciples, c'est ton amour pour les gens, et c'est l'amour que tu mets en nous pour les gens autour de nous, à notre travail, dans toutes nos occupations, dans nos loisirs, dans nos familles, Seigneur. Ton amour, Jésus. Et Seigneur, je te prie que nous puissions chacun devant toi nous mettre cette semaine et que tu nous Nous aide, Seigneur, à partager ton amour à ne serait-ce qu'une personne. Une personne, Seigneur, à qui je vais partager ton amour cette semaine. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être renouvelés dans l'expérimentation de l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas que pour les non-chrétiens. Peut-être qu'il y a un chrétien, un frère, une sœur à toi qui a besoin d'entendre encore combien le Père l'aime. Partageons ça, les amis, cette semaine. Et puis, Seigneur, tu vois que ce matin, on a parlé de ta parole. Ta parole que l'on entend, à laquelle on va obéir par amour et par la puissance de ton esprit. Et que ça va nous donner un zèle pour la partager. Seigneur, parle-nous là-dessus aussi, Seigneur. Comment je peux raconter une histoire de ce que tu as fait dans ma vie qui est vraiment reliée à une histoire de ta parole? Comment je peux aider quelqu'un par ta sagesse divine, par un verset, par un proverbe, aider quelqu'un cette semaine? Et comment je peux aussi peut-être inviter, trouver un moment, une heure dans ma semaine où je vais inviter une, deux, trois personnes et lui proposer de découvrir un passage de ta parole. Seigneur, on ne veut pas faire ça sous pression. La seule pression que l'on accepte, c'est la douce pression de toi, Saint-Esprit. Ta douce pression. On est ouvert à cette pression-là. Parce qu'elle est, douce, et quand elle vient, on ne peut pas vraiment refuser, Saint-Esprit. Alors Seigneur, ce matin, avec mes frères et sœurs, je dis, ben, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Vous pouvez lever les mains si vous réagissez d'une manière ou d'une autre, vous mettre à genoux, lever les mains, faites quelque chose. Dites-lui à lui, me voici. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur, dans ta moisson. La moisson est grande. Je veux être un ouvrier, Seigneur. Je veux être une ouvrière. La moisson est grande. Seigneur, ce n'est pas pour mériter ton amour. C'est parce que je suis tellement touché, visité par ton amour. Je veux devenir ou grandir dans le fait d'être cet ouvrier, cette ouvrière. Pas ma volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et Seigneur, là, nous croyons qu'alors que nous rentrons dans cette abeille, Seigneur, ça ne repose pas sur nous. Tu es le Seigneur de la moisson. Tu es le maître de la moisson. Mais tu nous envoies. Et là, nous allons voir notre huile transformée. Là, nous allons voir les nations que nous touchons transformées. Là, nous allons voir des fruits. Et là, nous allons voir la multiplication des disciples. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié dans cette semaine. Merci, Seigneur, parce que nous nous rassemblons dans ces moments-là pour ensuite être dispersés par toi dans la moisson. Seigneur, nous ne voulons pas pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on se comporte comme des membres d'un club chrétien, Seigneur, avec le confort que ça implique. Seigneur, pardon encore. Pardon pour ça. Pardon pour mes raisonnements, Seigneur. Mes raisonnements cloisonnés, Seigneur. Tu ouvres notre esprit, Seigneur. Tu ouvres nos cœurs. Tu élargis. Je voyais comme je disais l'autre jour à mes filles, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui est née, c'est pas comme si j'avais dû partager l'amour que j'avais pour la première avec la deuxième et ainsi de suite. Non. À chaque enfant qui est venu en plus dans notre famille, Dieu a élargi nos cœurs en tant que parents. Et je sens que ce matin, le Seigneur élargit vos cœurs. Le Seigneur élargit ton cœur ce matin. Ce n'est pas la même dose de Jésus en toi que tu dois, qui doit se diviser. Non, alors que tu obéis, Dieu va élargir ton cœur, élargir l'espace de ta tente. Il va te donner plus d'amour encore pour que tu puisses encore plus le partager. Oh Seigneur, baptise-nous encore dans ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. On va terminer là, les amis. J'ai vraiment à cœur d'honorer les moniteurs, les enfants qui s'en occupent. On va aller